perdu face à ses demandes de résiliation pour des raisons éthiques, d'une part, et d'autre part, face à des clients qui disent « je ne vous en demande pas plus, sinon vous allez vous suicider ». Voilà, ça donne une petite idée du climat et aussi de l'indépendance et de la hiérarchie militaire et de tous ces rouages absolument militaires, plus que militaires d'ailleurs, dans cette entreprise. On va retrouver Frédéric Lordon, après l'anthropologue, voilà l'économiste. Frédéric Lordon, vous connaissez si vous écoutez La Basse, j'y suis, et qui le 23 septembre dernier nous donnait son regard et son analyse sur France Télécom.
Vous appelez pour...
Frédéric Lordon, la crise chez France Télécom, privatisée en grande partie, et puis avec La Poste qui a l'air de dériver elle aussi vers la privatisation. Est-ce qu'on peut évoquer ça ?
Bah oui, on peut, je dirais même qu'on doit. C'est une manière de revenir sur le thème de la crise de la configuration présente du capitalisme en tant qu'elle donne lieu, qu'elle soutient ce que j'appelle, pour faire simple, un capitalisme de basse pression salariale. Et ce capitalisme de basse pression salariale, il est structuré autour de deux grandes contraintes structurelles. La première contrainte, c'est la contrainte actionnariale. La contrainte faite aux entreprises de dégager toujours plus de rentabilité à servir l'actionnaire. Et la deuxième contrainte, c'est la contrainte concurrentielle. Bon. On voit bien que la synergie de ces deux contraintes opère un effet de tenaille absolument mortel qui voue le salaire à devenir une variable d'ajustement envoyée dans une dynamique de compression indéfinie. Bon. Alors ça, c'est, je dirais, l'appréciation quantitative des choses. On pourrait prendre cette affaire de contrainte actionnariale, puisque, je veux dire, enfin, c'est exactement de ça dont il va être question lorsqu'on va parler de France Télécom et qu'on va évoquer le destin de La Poste. Plus qualitativement parlant, il faut se demander pourquoi la symbiose de la contrainte actionnariale et de la contrainte concurrentielle est à ce point toxique. Car il faut le dire, je veux dire, c'est le plongement dans un univers ultra-concurrentiel qui exalte, en quelque sorte, qui démultiplie les effets nuisances de la contrainte actionnariale. Sous l'injonction actionnariale de dégager sans fin de la rentabilité financière, la concurrence a pour effet de placer tous les agents en position d'avoir à défendre des intérêts vitaux. Et ça, de haut en bas de la pyramide hiérarchique. Parce que le paradoxe, d'une certaine manière, c'est que ça commence avec le patron lui-même. N'est-ce pas ? Le patron qui n'est plus du tout le seul maître à bord après Dieu hein, dans l'entreprise. Maintenant, il a sur le dos les actionnaires et les marchés financiers.
Et la concurrence aussi.
Et la concurrence.
C'est deux arguments. Le gars va dire, mais attendez, il y a une telle concurrence qu'on est obligé de se conduire comme ça. Et puis, il y a les actionnaires qui sont derrière nous et on est obligé de se conduire comme ça.
Et alors, ce qui est tragique, c'est que cet argument ne peut pas être balayé du revers de la main, car il est objectivement bien fondé. Qu'il soit instrumenté de la plus cynique et de la plus brutale des manières, n'empêche pas que ces contraintes-là sont bel et bien là. Et alors, pour le patron, c'est assez terrible, parce que s'il ne donne pas satisfaction, il sautera. Et il sautera selon l'enchaînement fatal suivant, sous-performance, baisse du cours de l'action, menace d'OPA, débarquement de toute l'équipe dirigeante. Et même avant l'OPA, si par hasard il y avait un petit putsch de conseil d'administration, on se débarrasserait du patron mal performant dans de meilleurs délais. Or, le patron ne veut qu'une chose, il veut persévérer dans son être patronal. Parce que c'est toute sa vie. Je veux dire, l'ivresse de conduire une grande entreprise mondialisée, le salaire à millions, les stocks options, les retraites chapeaux, c'est son existence même de patron, c'est ce qui fait sa joie d'individu. Alors, je veux dire, il ne se laissera pas déposséder de ça sans rien faire. Et c'est là que je dis que le patron est ce que j'appelle le maillon faible paradoxal. C'est-à-dire, d'un côté, il est le plus vulnérable, le plus sensible à l'injonction actionnariale, puisque c'est lui qui la prend en pleine poire, hein, au tout premier degré. Mais d'un autre côté, il est aussi celui qui conserve le pouvoir dans l'entreprise, et notamment le pouvoir de mettre toute son organisation sous tension pour lui faire atteindre les objectifs au travers duquel passe sa persévérance dans l'être patronal. Et donc, l'injonction indéfinie de productivité, qui sera enfin, destinée à être servie à l'actionnaire sous la forme de la rentabilité financière, hein, cette injonction descend en cascade tous les échelons de l'entreprise sans la moindre perte en ligne. Et donc je dis qu'on a là une structure tout à fait générale, rassemblée dans l'injonction suivante, qui est « tu performes ou tu sautes ». Et on retrouve ça absolument à toutes les échelles. On retrouve ça dans les rapports actionnaire-manager, dans les rapports donneur d'ordre sous-traitant, et évidemment dans les rapports entre supérieurs et subordonnés au sein de l'entreprise et ceci à tous les niveaux.
Sachant que les subordonnés sont actionnaires, en l'occurrence, très souvent chez France Télécom.
Oui, mais bien sûr, mais ça c'est toute l'arnaque de l'actionnariat salarié qui procède de la recette du pâté d'alouette, c'est-à-dire